VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. RCA, profonde division au sein de la population de Bambari dans le centre du pays, où les habitants vivent dans la psychose d'une nouvelle flambée de violence après l'expiration ce mardi de l'ultimatum de 48 heures donné par la MINUSCA, la force onusienne, à Ali Daras, leader de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, pour quitter le territoire centrafricain. Des résidents de Bambari ont organisé deux marches ce matin pour réclamer l'arrestation d'Ali Daras et exiger qu'il réponde des actes qu'il a commis dans plusieurs villes de la RCA. Mais il y a eu hier une manifestation en faveur du maintien du chef de l'UPC dans la région. Théâtre d'accrochage la semaine dernière entre l'UPC et le FPRC, deux factions rivales de l'ex-Téléka. Au micro de Félix Sébastien Zembrou, Joseph Ndomaye, un résident de Bambari, décrit aujourd'hui la situation dans la ville.
La MINUSCA est en train de jouer sur le gouvernement centrafricain. La MINUSCA n'a pas fait son travail qu'on l'a envoyé de venir faire en République centrafricaine. Donc la MINUSCA est venue tout juste s'enrichir. Il s'est donné et prolongé le mandat de Daras. Et que moi, j'ai constaté. Cette manifestation d'hier là aussi, c'est fomenté par eux. Et surtout les contingents mauritaniens.
Comment vit la population à l'heure actuelle à Bambari?
Nous sommes pris en otage. La population est prise en otage. Et la ville même est divisée en deux parties. Moi, j'ai pressenti que Bambari est prise en otage.
Joseph Ndomaye à Bambari en RCA. En République démocratique du Congo, le gouvernement refuse catégoriquement d'ouvrir une enquête comme l'ont demandé Washington, Paris et l'ONU sur une vidéo mettant en cause les FARDC, l'armée nationale, dans un possible massacre. Kinshasa continue de qualifier la vidéo de montage grossier visant à nuire à la RDC. Jacques Aristide.
Deux autres vidéos, pas plus authentifiables que la première, ont été relayées par les réseaux sociaux. Elles montrent ce qui pourrait être des scènes de la brutalité ordinaire que dénonce l'ONU dans la répression de la rébellion Kamuinansapu au Kasaï. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a demandé hier soir à enquêter sur ce qui apparaît, dit-il, comme un usage excessif et disproportionné de la force et à mettre un terme aux violations massives des droits humains dans cette région. La France a également exhorté les autorités congolaises à faire la lumière sur ce qu'elle appelle d'agissements inacceptables et à identifier et punir les responsables. Dès dimanche, le département d'État américain avait appelé Kinshasa à lancer une enquête immédiate et complète sur ces images. Le gouvernement congolais a réagi dans un communiqué officiel, opposant une fin de non-recevoir à ces demandes. S'estimant visé régulièrement par des rumeurs malveillantes, Kinshasa argue que face à des images d'amateurs anonymes, il ne lui revient pas de prouver l'innocence des forces armées du pays et d'ajouter qu'il appartient plutôt aux accusateurs, jusque-là inconnus, de prouver ces faits afin que tous les éléments incriminés en répondent conformément à la loi.
Zimbabwe, le plus vieux chef d'État en exercice de la planète, le président zimbabwéen Robert Mugabe a célébré ce mardi ses 93 ans en répétant sa ferme intention de continuer à régner sans partage sur le pays malgré le poids de plus en plus évident de son âge. Comme c'est le cas depuis des années, le doyen Mugabe a soufflé ses bougies lors d'une cérémonie intime réservée à ses seuls ministres et proches collaborateurs. Il a réservé sa seule apparition publique à la radio télévision d'État sous la forme d'un long entretien où il est apparu très fatigué mais déterminé à garder les rênes du pays. La majorité des gens pensent qu'il n'y a personne pour me remplacer, a assuré Robert Mugabe. Mais l'homme fort du Zimbabwe s'est toujours gardé de désigner publiquement un dauphin.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, le procès du meurtre de quatre hommes, dont deux Français enlevés en 2011 à l'hôtel Novotel d'Abidjan, au plus fort de la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts dans le pays, a débuté ce matin à Abidjan en présence des 10 accusés, pour la plupart des militaires ivoiriens. Tous les accusés sont présents, tous ont un avocat, a déclaré le président de la cour, le juge Molaï Sissoko, en ouvrant le procès. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogboblé, qui commandait à l'époque la garde républicaine ivoirienne, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Nouveau gouvernement depuis hier au Burkina Faso. La nouvelle équipe comprend 32 ministres avec l'entrée de 5 nouvelles personnalités dans le gouvernement contre 30 dans l'équipe précédente nommée en janvier 2016 par le président Roch Marc Christian Kabore. Pas de changement dans les ministères clés, affaires étrangères, justice, économie et finances, mais le président burkinabé cède le portefeuille de la défense. Le domaine de la sécurité a maintenant son propre ministre, alors que le Burkina Faso fait face depuis 2015 aux attaques des djihadistes. Par ailleurs, l'armée burkinabé veut se réformer pour devenir une armée républicaine. Tel est l'objectif du plan stratégique qui a fait l'objet de la rencontre d'échanges entre les responsables militaires du Burkina. De Ouagadougou, les explications de notre correspondant Zoumana Ronogo.
Mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 pour la réforme des forces armées nationales, appropriation par les acteurs. C'est sous ce thème que les hauts gradés de l'armée burkinabé se sont penchés. Écoutons le général Oumarou Saadou, chef d'état-major général des armées, sur les grands axes de la réforme.
La dépolitisation des forces armées, l'équipement des forces armées, la gouvernance, la responsabilité, le contrôle et aussi, bien entendu, le moral et les traditions dans nos forces armées.
Nous avons rencontré Jonas Yen. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile du Faso. Voici ce qu'il pense de cette réforme de l'armée burkinabé.
L'aspect qui nous paraît le plus important, c'est la dépolitisation de l'armée. Donc avoir une armée républicaine. Avec les réformes en cours, ça va faciliter la tâche de tout le monde. Aussi bien nous les civils que cette majorité de militaires aussi qui souhaitaient vraiment que l'armée reste à sa place. Donc je pense que c'est une bonne chose. On peut parler de renaissance si on veut. L'armée n'a pas été formée pour gérer des pouvoirs d'État. Quitte à ce qu'un gouvernement en place, au regard de la compétence d'un militaire, par exemple un médecin, un technicien dans un domaine bien précis, donc peut être appelé dans le gouvernement. Mais cela ne doit pas être confondu à la gestion du pouvoir par l'armée.
Et dans ce vox pop, des Burkinabés s'expriment sur la nouvelle voie que veut emprunter l'armée.
Moi j'attendais ça depuis fort longtemps, puisque l'armée avec la politique ne peut pas se mélanger. Ça c'est normal. L'armée est là pour protéger la population. La réforme de l'armée, ça c'est bon, oui.
Notre armée était vraiment politisée. Maintenant, avec cette réforme, je crois que ça va nous amener de l'avant, à nous aider à avoir une armée républicaine. Nous, population aussi, il faudra aussi que nous fassions une réforme, si aider l'armée, pour qu'on puisse ensemble lutter contre les fléaux qui sont comme le terrorisme et le grand banditisme, dénoncer et ne pas rester silencieux.
Cette renaissance va coûter certainement de l'argent. Alors, où le trouver? Suivant le président du FASO, Roch Marc Christian Kabore.
Concernant son financement, un avant-projet de loi de programmation militaire sera bientôt introduit auprès de l'Assemblée nationale pour solliciter les crédits budgétaires nécessaires à la conduite des activités. La sécurité et la paix sont des préalables incontournables au développement. C'est pourquoi, à la requête du gouvernement burkinabé, l'Organisation des Nations Unies s'est engagée à nous accompagner dans un processus de réforme du secteur de la sécurité, afin de partager avec nous son expertise accumulée à travers ses nombreuses expériences sur le théâtre d'opération.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Appel à l'aide urgente de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Près de 1 400 000 enfants risquent de mourir de faim cette année au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, selon l'agence onusienne. Précision de Jean-Roger Bion.
Au Yémen, où une guerre civile fait rage depuis près de 2 ans, 462 000 enfants souffrent de malnutrition sévère et ils sont 450 000 dans le nord-est du Nigeria où sévit le groupe islamiste Boko Haram. FuseNet, le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine, a noté que les régions les plus reculées de la province de Borno au Nigeria sont déjà frappées par la famine depuis la fin de l'année dernière. Le désastre va aller en empirant, les agences d'aide étant dans l'impossibilité d'atteindre les victimes, souligne l'UNICEF. La sécheresse en Somalie a laissé 185 000 enfants au bord de la famine et ils seront quelque 270 000 d'ici quelques mois, a mis en garde l'agence onusienne. Au Soudan du Sud, plus de 270 000 enfants souffrent de malnutrition et la famine vient juste d'être déclarée dans certaines parties de l'État d'unité dans le nord où vivent 20 000 enfants. Le directeur de l'UNICEF, Anthony Lake, a appelé à agir vite. Nous pouvons encore sauver de nombreuses vies, a-t-il dit.
Et pour terminer, crise migratoire, les corps de 74 migrants morts noyés après le naufrage de l'embarcation dans laquelle ils tentaient de rejoindre l'Europe ont été découverts sur une plage à 45 km à l'ouest de Tripoli. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.